à l'ombre du cœur de mamie, à l'ombre du cœur de mamie. Un oiseau s'était endormi, un oiseau s'était endormi. Un jour qu'elle faisait semblant d'être la belle au bois dormant. Et moi me mettant à genoux, et moi me mettant à genoux. Bonne fée, sauvegardez-nous, bonne fée, sauvegardez-nous. Sur ce cœur j'ai voulu poser une manière de baiser. Alors cet oiseau de malheur, alors cet oiseau de malheur se mit à crier au voleur, se mit à crier au voleur. Au voleur et à l'assassin, comme si j'en voulais à son sein. Aux appels de cet étourneau, aux appels de cet étourneau. Grand branle-bas dans l'anderneau, grand branle-bas dans l'anderneau. Tout le monde et son père accourent, aussitôt lui porter secours. Tant de rumeurs de grondements, tant de rumeurs de grondements. On fait peur aux enchantements, on fait peur aux enchantements. Et la belle désabusée ferma son cœur à mon baiser. Et c'est depuis ce temps, ma sœur, et c'est depuis ce temps, ma sœur, que je suis devenu chasseur, que je suis devenu chasseur.
Sans Dieu, sans maître et sans publicité, la radio libre de la Fédération anarchiste, et c'est l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Bonjour. Alors, je monte un peu le niveau du micro, et voilà. Et aujourd'hui, avec Sylvie du groupe Libertaire d'Ivry, nous allons continuer de parler du livre de Martin Winkler, Les Brutes en Blanc. Bonjour Sylvie.
Bonjour. avec un chapitre intitulé des maltraitances institutionnelles, puis on va revenir sur un sous-chapitre dont on avait envie de discuter plus longtemps, le patient fragmenté dans le contexte de la formation des étudiants en médecine. Donc, Les Brutes en Blanc de Martin Winkler, c'est une alerte un peu, enfin, que sur les maltraitances médicales et par un médecin lui-même. Alors, auparavant, nous allons, je vous propose deux brèves. L'une tirée de actu.fr en Seine-Saint-Denis. Alors, en Seine-Saint-Denis, devenue presque aveugle, une patiente met en cause un hôpital psychiatrique. Une ancienne patiente accuse un médicament reçu en hôpital psychiatrique de lui avoir fait perdre la vue. La justice a ordonné une expertise médicale pour faire la lumière. Donc voilà, c'est un début d'article, hein, parce que bon, il est réservé aux abonnés, mais bon, on peut lire le début, du 29 mars 2026. Elle dit avoir perdu la vue après son hospitalisation. Une ancienne patiente de l'hôpital psychiatrique de Neuilly-sur-Marne, en Seine-Saint-Denis, accuse un traitement administré en 2012 d'être à l'origine de sa quasi-cécité. Cette patiente avait en fait été hospitalisée au sein de l'établissement public de santé EPS Ville-Évrard entre le 30 juillet et le 27 septembre 2012. Au cours de son séjour, elle avait reçu du Loxapac, un antipsychotique utilisé pour calmer les états d'agitation sévères. Depuis, elle avait constaté une baisse progressive de sa vue. Une rétinite pigmentaire lui avait finalement été diagnostiquée. Autre brève. Alors, je vais essayer de l'ouvrir. Voilà. Qui vient du Parisien, oui, bon. À Paris, précurseur dans la prise en charge psychiatrique d'urgence, ce centre d'accueil installé au Sénat est menacé. Créé en 1981 par la psychiatre Ginette Amado dans les locaux du Sénat, le centre d'accueil et de crise, CAC, ouvert 24 heures sur 24, rue Garancière, dans le 6e, permet une prise en charge de proximité pour éviter les hospitalisations. Sa refonte prévoit la suppression des lits d'urgence la nuit. Un article du 26 février aussi. En son temps, au sortir des années 1970, Ginette Amado révolutionnait la prise en charge psychiatrique à l'hôpital Sainte-Anne, dans le 14e arrondissement de Paris. Préférant à l'hospitalisation des patients en crise un accueil d'urgence de proximité, plus humain, moins contraint. Le premier centre d'accueil de crise, CAC parisien, qui porte désormais le nom de la psychiatre avant-gardiste, s'était alors ouvert en 1981 rue Garancière, dans une aile du Sénat. Ici, les patients des 5e, 6e et 7e arrondissements pouvaient 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 être accueillis, écoutés, parfois même seulement rassurés, sans avoir à franchir les murs stigmatisants de Sainte-Anne. En 2019, 1400 patients y étaient suivis, autant d'hospitalisations évitées. Un accueil de jour, mais plus de lits d'urgence dédiés la nuit. L'hôpital psychiatrique, rebaptisé GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, a depuis revu la copie. Le CAC est aujourd'hui menacé d'une refonte profonde. Fini l'accueil de nuit et les lits d'hospitalisation hors les murs, le CAC, déjà intégré provisoirement depuis 2020 dans les locaux du GHU depuis des travaux de désamiantage rue Garancière, ne retrouvera pas sa configuration originelle. Le projet de restructuration prévoit, dans les locaux historiques du Sénat, un accueil ambulatoire de jour, tandis que les trois derniers lits encore dévolus au CAC seraient attribués à d'autres services de l'hôpital. L'accueil de jour continuera d'accueillir toute la population du territoire, tandis que la prise en charge des étudiants, dont les besoins explosent ces dernières années, et des aidants de patients, sera renforcée avec des consultations dédiées, nous précise le chef de pôle de secteur au GHU, Sébastien Bizac. Depuis l'annonce de la réforme en juillet 2025, les politiques de tous bords et les équipes soignantes organisées en collectif sont vent debout. Le modèle qui a fait ses preuves auprès des patients, si bien que que dès les années 1990, Ginette Amado avait réussi à vider un pavillon entier de l'hôpital en intervenant en amont des crises, est devenu un enjeu dans la sauvegarde de la psychiatrie de proximité parisienne, au point que, début janvier, une manifestation a mené à la suspension du projet. Depuis mi-février, l'avenir du centre d'accueil de crise fait l'objet de négociations avec les syndicats. Après qu'un vœu a été adopté en Conseil de Paris fin novembre dernier, plusieurs élus parisiens ont adressé ce lundi un nouveau courrier au directeur du GHU. À Marie-Christine Lemardelet, adjointe PS à l'enseignement supérieur, la vie étudiante et la recherche, Anne-Claire Bou, adjointe écologiste à la santé, députée PS Céline Hervieux et la conseillère PS du 5e Marine Rosset, réclament qu'avant toute décision de programmation soit menée une étude médico-économique sur l'ouverture 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La sénatrice écologiste et ex-adjointe à la santé de Paris, Anne Souris, demande elle aussi qu'un audit soit mené par la Cour des comptes. Pour elle, le projet du GHU est une gestion de la pénurie. Est-ce sérieux alors que la psychiatrie est pour la deuxième année déclarée grande cause nationale et qu'il y manque de structures de crise à Paris ? Il y a un manque de structures de crise à Paris, dénonce-t-elle. Le docteur Bizac met, quant à lui, en avant l'impossibilité de revenir à un accueil continu pour des raisons de sécurité. Remettre Silly isolé du plateau technique de l'hôpital en 2026, ce n'est plus possible. Il y a une augmentation des passages à l'acte chez les patients, tellement le secteur de la psychiatrie est en difficulté. Le modèle de Ginette Amado était super, mais l'évolution de la psychiatrie n'est plus favorable, notamment parce qu'il rencontre une difficulté de recrutement de médecins qui ne veulent plus faire d'astreinte, justifie-t-il. Ainsi, le projet prévoit un renforcement de l'ambulatoire avec plus de postes de soignants, rue Garancière, des visites à domicile, des ateliers, dans la continuité de ce que le CAC propose depuis sa création. On n'est pas à Paris dans un désert médical, il y a des services d'urgence pour les patients qui sont en crise en pleine nuit, défend le médecin qui ne comprend pas l'opposition au projet. Ce que nous voulons maintenir rue Garancière, c'est l'ouverture la nuit. Il n'y a jamais eu de problème de sécurité. Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Le CAC Amado à Sainte-Anne, c'est la fermeture. C'est n'importe quoi. Tous les spécialistes de la santé mentale sont d'accord pour dire qu'il faudrait plus de structures comme celle-ci sur le territoire. S'agace pourtant Jean-Pierre Lecoq, maire LR du 6e. 8 accueils de crise à Paris ouverts la nuit. Ce que l'Agence régionale de santé confirme, l'ARS Île-de-France se mobilise au contraire pour le maintien et le renfort de ces structures, au même titre que les centres médico-psychologiques. L'ARS met cependant en avant l'argument sécuritaire du rapatriement des lits d'urgence au sein de Sainte-Anne. Elle liste également les dispositifs d'urgence accessibles la nuit à Paris, notamment le Centre psychiatrique d'orientation et d'accueil, CPOA de Sainte-Anne, le Centre d'accueil et de crise Temple à Paris-Centre, le Centre de crise permanent Hauteville pour les 8e, 9e et 10e, le Centre d'accueil psychiatrique Bastille pour les 11e et 12e, le Centre d'accueil de crise du 13e, les unités Henri Hay dans le 17e, la salle dans le 19e et Avron dans le 20e. Du côté des soignants du CAC Amado, qui se battent eux aussi pour que soit maintenue l'ouverture la nuit, certains dénoncent des conditions de travail dégradées, des pressions pour quitter le service et une baisse d'activité depuis l'installation à Sainte-Anne. Des accusations aussitôt balayées par le docteur Bissac. Une nouvelle réunion est prévue le 10 mars pour tenter de parvenir à un accord sur la réorganisation. Voilà, donc elle s'est donc déroulée le 10 mars, puisque... Voilà, donc ça c'était un article du 26 février 2026 sur les centres d'accueil de crise.
Avant de repasser au bouquin, peut-être qu'on peut passer à une petite musique. Oui. Tu m'as dit que tu as trouvé, enfin, si tu peux faire un petit commentaire sur la musique.
Ah oui, alors.
Enfin, à part ça, moi j'étais très contente du débat sur Bon Pied Bonne et toute sa tête.
Voilà le contexte.
Et en effet, c'est une musique qui est tirée du film, c'est ça ?
Oui, alors on a projeté dimanche pompier Bonneuil et toute sa tête, et, suivi d'un débat. Et il y a une musique qui est récurrente dans le film, qui revient, qui évoque, ça peut évoquer un peu une musique, pas une musique d'ascenseur, mais disons quelque chose de une musique instrumentale, mais qui évoque peut-être un peu la modernité, le luxe ou la modernité, et avec des voix, des chœurs qui et sur un rythme plutôt assez groovy, quoi, on peut dire.
Bah, puisque le film date des années 70, je suppose que la musique aussi.
Et voilà, c'est un morceau de Booker T and the MGs qui s'intitule LA Jazz Song. Et donc, bah oui, je propose qu'on l'écoute maintenant. Alors, voilà, c'est parti. Radio Libertaire, 89,4, la radio sans Dieu ni maître, et c'est l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Et donc, aujourd'hui, Les Brutes en Blanc, livre de Martin Winkler. Alors, rappel, né en 1955, Martin Winkler a exercé la médecine générale en France de 1981 à 2008. Romancier, essayiste et critique. Il est l'auteur de La maladie de Saxe, Le cœur des femmes, cœur C-H-O, voilà, et Les histoires de Franz. Il vit désormais au Canada où il participe à une formation des futurs médecins à l'université McGill et à l'université d'Ottawa. En tout cas, c'était ce qui était écrit sur l'édition 2015, je crois, 2016. Donc peut-être, voilà, c'est toujours, il en est toujours ainsi s'il n'a pas pris sa retraite. voilà.
Oui, donc en fait, tu avais lu le paragraphe là que tu vas relire, tu l'avais lu à la fin de l'émission, donc du coup, il n'avait pas été possible de faire des commentaires, et puis la semaine dernière, j'étais pas là. Mais moi, j'en avais personnellement lourd à dire, je vais te faire la surprise, parce que bon, déjà, il faut le repréciser. Pour nous, c'est la surprise, puisque en fait, quand tu lis le bouquin, tu le lis pour la première fois, et moi, je le découvre aussi pour la première fois.
Oui.
Donc, en effet, le passage que tu vas lire, c'est là, je viens de le relire pour être sûr que j'ai pas rêvé. Tu sais, quand tu lis un truc une fois, tu te dis peut-être que c'est moi qui interprète, etc. Donc, de toute façon, on n'avait pas pu du tout, on n'avait pas pu du tout le commenter. Or, je trouve que c'est quelque chose qui est ce paragraphe-là qui demande vraiment, vraiment des commentaires, quoi. Enfin, pour moi, hein, en tout cas. Et voilà. Donc, je.
Alors, il s'agit du. Donc, on va revenir sur un chapitre qui s'appelle la déformation médicale, un sous-chapitre le patient fragmenté. Et ben, je démarre. La médecine générale et la psychiatrie sont des pratiques exigeantes parce qu'elles doivent appréhender le patient dans son ensemble, milieu socio-économique et familial inclus.
Ça bon, peut... alors déjà, hein,
oui.
Avant de passer à ce que je pense de ce qu'il dit sur la critique qui fait des spécialistes, en rappelant que lui-même était généraliste et que j'ai vu quand même assez souvent des généralistes qui pissait un peu la jalousie par rapport à, excuse-moi, enfin de lui faire d'avoir des soupçons sur ses intentions, mais je veux dire, c'est comme ça. Premièrement, même ne serait-ce que financièrement, mais même au point de vue statut, le statut d'un spécialiste est supérieur à celui d'un généraliste. C'est un fait,
oui.
Et je comprends que ça leur fasse pas plaisir, parce que en effet, je veux dire, ils peuvent le ressentir comme quelque chose d'injuste, quoi. Si
d'ailleurs, il l'a évoqué dans le livre.
À d'autres chapitres, ouais. Bah oui. Mais ça c'est un truc qu'on pourra commenter, mais par ailleurs, je veux revenir, j'en ai souvent parlé, mais je reviens dessus, sur le fait de faire un parallèle entre la psychiatrie et la médecine. Et je le dirai jamais assez, puisque c'est mon point de vue, hein, ça veut pas dire que c'est pas... tu peux le contester, mais pour moi, je trouve ça complètement aberrant, de faire un parallèle entre les deux. La psychiatrie, je parle pas du fait de faire, même le fait, tu dis, t'apprends à donner tel médicament, ça relève de la médecine. Enfin, je veux dire, un médicament, d'ailleurs même psychotrope, après, les effets secondaires, c'est comme les effets secondaires de n'importe quel médicament que donnerait un généraliste, mais le fait est que ça fait... c'est pas de la totale foutaise, ça peut être dangereux, mais c'est pas n'importe quoi, alors que la psychiatrie, c'est n'importe quoi. Je veux dire, c'est le fait d'avoir une capacité d'écoute, ce n'est pas une compétence au sens de la médecine, ou de l'électricité, ou de la plomberie, tu vois, je veux dire. C'est pas une compétence, c'est une question de caractère. Hein, c'est pour ça que j'évoquais souvent même mon fils, qui a beaucoup de capacité d'écoute, et qui du coup peut faire du bien aux gens qui font appel à lui. C'est juste une capacité d'écoute, tu vois. Mais en revanche,
oui, alors,
à chaque fois que tu demandes à un psy... à quoi ça a pu lui servir ces années d'études de psy, il peut pas te répondre parce que est-ce que pratiquement il y a un truc qu'il a lu dans, je sais pas, Lacan, dans n'importe qui, et qui lui a servi d'un point de vue pratique. Et or, autant un médecin, on peut pas dire le contraire, il est pas là pour simplement regarder passer les anges. Je veux dire, c'est pas juste du blabla, quoi. Je veux dire, c'est une vraie compétence, la médecine. Alors, il y a des mauvais médecins, mais normalement, la médecine est une compétence comme la plomberie est une compétence, ou la mécanique, tu vois. C'est pas un truc que tu improvises.
Après, oui, il y a la psychiatrie hospitalière qui peut, dirait certains soignants, il faut des compétences aussi, à savoir, par exemple, immobiliser un forcené qui a plusieurs...
Un militaire a peut-être les mêmes compétences.
Avec des... Voilà, non, mais il y a des exercices d'entraînement par rapport à ça.
Ah oui, d'accord.
Oui. Peut-être de connaissance... Non, je plaisante, de connaissance d'électricité pour les électrochocs.
Voilà, l'électricité, et puis aussi, effectivement, pour les psychiatres, puisqu'il parle de la psychiatrie, eh bien, contrairement aux psychologues qui, effectivement, où là, c'est carrément évanescent, il faut connaître le médicament qu'on peut changer le patient en légumes ou qui va le calmer. Indéniablement, c'est pas dans la tête. Je veux dire, comme je l'ai souvent dit, d'ailleurs, si tu envoies un calmant à un rhinocéros en pétard, il va se calmer, parce que c'est pas un truc complètement arbitraire. C'est quelque chose qui a un effet. Après, on peut quand même contester.
Oui, donc en fait, oui, la psychiatrie se résume souvent, d'ailleurs, à la sédation et pas grand-chose d'autre, quoi.
Oui, voilà. Tu calmes ou tu les gens vont être plus heureux ou ils vont pioncer ou tu vois. Mais c'est tout. Mais faire un parallèle entre médecine et psychiatrie, et puis accessoirement, il me semble quand même bien que justement la psychiatrie en tant que médecine est une spécialisation. Un psychiatre est un médecin spécialiste. Donc, je veux dire, déjà, il est un peu à côté de la plaque en critiquant l'idée d'une spécialité, alors que la psychiatrie est une spécialité de la médecine. C'est, voilà. Donc, déjà, j'ai cette critique à faire. Mais je sais pas si là tu l'as déjà énoncé, l'idée de, je crois que c'est après, sur l'idée d'une compréhension globale.
Oui, alors le patient dans son ensemble, milieu socio-économique et familial inclus.
Non mais qu'est-ce qu'il faut entendre? Regarde,
ça se fait pas beaucoup en pratique, c'est ça.
C'est évidemment que ça peut pas se faire en pratique, mais bon, là on revient en plus à l'idée de la psychiatrie. Tu crois vraiment? Enfin, qu'est-ce que c'est que ce procès d'intention? Je veux dire, je pense que si tu veux, tu as des généralistes qui, en effet, vont essayer d'interroger le patient, mais parler de compréhension, par exemple, de dire comment ça va en ce moment, avez-vous des problèmes de sous, enfin, tu vois, je sais pas, ou à votre travail, ça peut arriver. Mais pourquoi un spécialiste pourrait pas en faire autant? Un spécialiste, c'est quelqu'un qui a fait des études générales plus 2 années. Minimum sur une partie du corps en particulier. Mais faut vraiment se la péter pour croire que tu vas avoir une compréhension du corps globale, même quand tu es un spécialiste. Celui qui est un peu sérieux, il reconnaît que même au sein de sa spécialité, il peut pas embrasser tout ce qu'il peut y avoir à savoir, et que des fois ils sont un peu gros gens comme devant. Je veux dire, là, je vais parler concret. Je crois que toute personne qui a déjà eu affaire à un spécialiste parce qu'il avait un problème, par exemple cardiaque ou un cancer un problème d'une partie du corps en particulier, eh bien, s'est rendu compte qu'un spécialiste, en effet, il a appris des choses pendant ses années de spécialisation qui n'ont pas été totalement inutiles. C'est pas comme un psy qui encule un peu les mouches, on va dire. C'est quand même un truc qui est censé avoir des applications pratiques. Si par exemple, je sais pas, hein, je te dis, j'ai pas de problème particulier et tout, mais bon, si par exemple, en ce qui concerne, mais j'ai vu moi-même, j'ai vu des cas où le fait d'avoir une spécialité faisait la différence, où le médecin un peu sérieux généraliste disait, là, désolé, ça relève plus de ma compétence, parce que oui, il y a des fois, il faut que tu te préoccupe que quelqu'un qui s'y connaît un peu mieux, parce que déjà il y a les études, mais au-delà des études, il y a le fait que tu apprends aussi sur le tas en voyant défiler des gens qui ont, enfin il y a des comme des jurisprudences, enfin tu vois des exemples précédents. Si tu es par exemple cardiologue et que tu as déjà vu plusieurs fois des patients présentant tel ou tel symptôme, sans être le docteur House, tu sais, une espèce de médecin comme ça qui fait des super diagnostics, tu te dis, t'as des choses que le généraliste pourrait pas appréhender. Enfin, j'aurais des exemples comme ça, mais je pense que si les gens y réfléchissent, ils ont soit eux-mêmes vécu, soit vu des exemples de ce genre. Moi, par exemple, j'ai fait un truc, ça m'a complètement clouée parce que c'était spectaculaire. Ma mère était, franchement, on pensait qu'elle allait mourir, quoi. Elle était dans un état pas possible. Et en fait, elle pouvait plus parler, elle pouvait plus bouger. Ses pieds étaient noirs comme le micro, là. C'était, puis je me disais, ben, tout le monde m'avait dit, faut venir, elle va mourir, quoi. Et franchement, je l'ai cru, quoi. Et le truc, c'est qu'il y a un gérontologue qui est passé et qui a dit que c'est une maladie spécifique des personnes âgées. Et il faut faire, donner tel médicament. Et je te jure, mais un miracle. Je te dis pas qu'elle faisait la roue, hein, mais je veux dire, du jour au lendemain, t'avais vraiment une grosse. Vraiment une grosse différence. Enfin, elle s'est carrément relevée.
Oui, alors donc on parle vraiment de là en fait que ce que tu critiques dans ce qu'écrit Martin Winkler dans Les Brutes en Blanc, c'est que l'université a tendance à encourager l'étudiant à suivre, disons, et fait l'éloge davantage de la spécialisation plutôt que de la médecine générale ou de la psychiatrie, en disant que non, la psychiatrie, eh ben, c'est on leur dit que les psychiatres sont incapables, ils ne savent rien faire de leurs 10 doigts, que les généralistes sont incompétents, ils n'ont pas assez appris.
Ben, c'est un peu vrai.
Ils sont paresseux, ils n'ont pas fait de spécialité, ou encore illuminés, ils se tuent au travail et frisent en permanence burn-out et dépression, et ils croulent sous la paperasse.
Bah, à part
donc
ça,
c'est un peu décourager un peu les étudiants, disons, de suivre de tels parcours.
Oui, mais si tu veux, il y a des choses, si vraiment, enfin, déjà, j'ai pas entendu tant que ça dire que les généralistes étaient paresseux. Première nouvelle.
Ah non, c'est
j'ai l'impression qu'ils en rajoutent un peu, histoire ouais.
Disons que c'est ce qu'on raconte aux étudiants quand on fait.
Qui sont pas
forcément des vérités, en fait.
Bah, sur le fait qu'ils puissent pas pousser leurs études plus loin. Effectivement, c'est possible qu'il y en ait qui disent que c'est parce qu'ils sont paresseux, il y en a qui n'ont pas les moyens, il y en a qui n'ont pas envie non plus de se spécialiser, c'est possible aussi. Mais le fait est qu'ils en savent moins, c'est en revanche, tu vois, ils mettent tout ça en même temps, tu vois, on nous fait des procès injustes. Oui, c'est un peu vrai. Et je veux dire, donc je reviens sur l'idée de la compréhension globale. D'une manière générale, j'ai déjà entendu des gens dire que même en politique, il faudrait essayer d'avoir une compréhension globale, etc. Et moi, je le dis un peu crûment, la compréhension globale de quoi que ce soit n'est pas à l'échelle humaine. C'est-à-dire que c'est tout, le corps, rien que le corps humain, rien que n'importe quelle spécialité, tu demandes à n'importe quel scientifique qui se la pète pas de trop, tu vois, il va reconnaître que même au sein de sa spécialité, déjà, il ne peut pas prétendre avoir une compréhension globale, je sais pas, de la physique, de la chimie, de la terre, de la géographie, de tout ce que tu voudras, de n'importe quelle science, quoi, tu vois. Donc, je vois pas comment tu pourras avoir une compréhension globale du corps humain. On en est loin. Enfin, j'invente pas que même un spécialiste a des fois est obligé de se déclarer un peu dépassé, si tu veux, par certains symptômes qu'il voit pas trop ce que ça peut être. Et puis bon, des fois c'est vrai qu'ils peuvent se tromper, mais que d'une part, pendant les 2 ans supplémentaires que tu fais d'études, tu apprennes quand même des choses qui... Et puis, pourquoi est-ce qu'il ne le lirait pas ? Par exemple, un cardiologue, moi, à ma connaissance, ayant parlé avec des personnes qui ont affaire à un cardiologue, eh bien, il se préoccupe de tout un tas de choses. Ça dépend des gens, mais c'est une question de personne, presque. Tu vois, le fait de dire « tu t'intéresses à ton patient », c'est pas le généraliste, pourquoi il serait plus d'empathie? Enfin, on a tous rencontré des médecins généralistes qui étaient des vrais connards, et à l'inverse, enfin, des spécialistes qui étaient des connards, et que c'est pas, ça tient pas au fait d'être, enfin, la compréhension globale, de toute façon, déjà, c'est hors sujet, puisque tu peux pas. Mais tenir compte de conditions plus générales, par exemple, le travail que fait la personne, si elle est en situation de stress, etc. En effet, un généraliste peut le faire, mais un spécialiste peut tout à fait le faire aussi. Je vois pas pourquoi, parce qu'il a fait 2 ans d'études en plus et qu'il reçoit plus souvent, évidemment, par définition, des patients qui ont un problème spécifique. Pourquoi il relierait pas ce problème spécifique à quelque chose de global ? Je trouve que c'est un procès d'intention qui est un petit peu lapidaire, on va dire.
Bien. Et nous allons poursuivre avec le chapitre 7 de la, je ne sais plus combien, troisième partie, intitulée « La fabrique des brutes en blanc », des maltraitances institutionnelles. On lit toujours « Les brutes en blanc » de Martin Winkler sur Radio Libertaire, l'émission L'Entonnoir, l'émission critique de la psychiatrie. Tout soignant est en position d'être maltraitant. Mais les maltraitances sont souvent la conséquence de relations de pouvoir qui leur sont imposées. Ainsi, la hiérarchie hospitalière favorise dans de nombreux contextes les maltraitances par délégation. Voici 2 exemples concernant les étudiants en médecine. Au cours des années 70, alors que je viens d'arriver comme nouvel étudiant dans un service de chirurgie digestive, l'interne, résident, dont je dépendais, me charge de pratiquer un examen gynécologique sur une jeune patiente. Je lui demande pourquoi il me charge, moi, apprenti encore inexpérimenté, de pratiquer cet examen et à quoi il servira. Il me répond « Il ne servira à rien, ça fait partie du bilan et il faut bien que tu apprennes. » Choqué, je vais bavarder avec la patiente qui me confirme qu'elle n'a pas du tout de symptômes gynécologiques. Je ne lui impose donc pas l'examen en question, mais je note dans le dossier qu'il est normal, pour éviter qu'on envoie quelqu'un d'autre lui faire tout de même. Plus tard, lisant le dossier, l'interne me lance diverses allusions d'un ton supérieur et méprisant, destinées à me faire comprendre qu'il m'a purement et simplement bizuté. Il ne lui était pas venu à l'esprit que cet examen gynécologique abusif était une violence qu'il imposait à 2 personnes, la patiente et moi. Je m'étais refusé à le faire, mais j'avais dû mentir sur le dossier et je n'avais personne auprès de qui dénoncer l'abus de pouvoir et la maltraitance que j'avais soupçonnée.
Et en parlant de soupçonner, je dis ça comme ça, mais est-ce qu'il ne te vient pas à l'esprit qu'il doit y avoir des médecins qui veulent pratiquer des examens gynécologiques inutiles à quelqu'un qui a une migraine, enfin une femme qui a une migraine? Pour des raisons, on va dire, enfin bon, tu vois ce que je veux dire,
oui,
quoi.
Oui, tout à fait. Dans le premier épisode de l'École de médecine, le documentaire de Marie Agostini, Arte 2007, dont j'ai parlé plus haut, bon, on assiste à cette scène stupéfiante. Une étudiante se voit confier la tâche de faire un prélèvement à un patient âgé hémiplégique et aphasique, à demi paralysé et incapable de parler. Elle plonge une longue aiguille dans l'aine du patient pour aspirer du sang artériel. C'est un geste délicat que même les professionnels chevronnés peuvent rater et extraordinairement douloureux pour la personne qui le subit. Dans la séquence en question, on voit le résident expliquer très vaguement à l'étudiante ce qu'elle doit faire et l'abandonner à son sort. Les séquences suivantes, filmées par un cadreur placé au bout du lit, la montrent essayant vainement à plusieurs reprises de pratiquer le prélèvement, avec pour seul accompagnement les gémissements du malade incapable de protester et de se défendre. Elle piquait bien sûr la jambe paralysée, elle rate ce prélèvement et doit demander aux infirmières de le faire. Comment aurait-elle pu le réussir ? On ne lui a jamais montré. La maltraitance institutionnelle n'est
pas du tout anecdotique en France. Elle dépasse largement le cadre de l'enseignement. Elle est si fréquente qu'elle a fait l'objet d'un rapport officiel à la Haute Autorité de Santé en 2010. Voir Claire Compagnon et Véronique Gadi, un état des lieux fondé sur des témoignages d'usagers et de professionnels, la maltraitance ordinaire dans les établissements de santé, octobre 2009.
Tu rappelles de quand date le livre ?
2014. Donc, la maltraitance institutionnelle afflige les patients soignés pour des troubles mentaux, les personnes âgées, les personnes handicapées. Elle afflige aussi leurs familles, conjoints, enfants, celles et ceux qu'on nomme les aidants naturels et qui, au lieu d'être accueillis à bras ouverts comme des contributeurs aux soins, sont souvent traités comme des intrus et des indésirables. Elle concerne tous les professionnels de santé, mais elle a pris des dimensions extraordinaires depuis les lois de tarification à l'activité qui régissent désormais le fonctionnement des hôpitaux. La maltraitance en hôpital psychiatrique. Aujourd'hui, on attend d'une institution de santé qu'elle soit rentable. C'est bien entendu faire fi de la dimension humaine imprévisible de la délivrance des soins. Le 25 mai 2016, Libération révélait que la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté venait de rendre un rapport accablant sur le fonctionnement des hôpitaux psychiatriques français. Les lieux d'isolement et les procédés de contention se multiplient, le nombre de médecins diminue, le personnel est sans cesse réduit, certains établissements punissent les patients tandis que leur intimité est bafouée par le recours à la vidéosurveillance et que les interdictions de visite sont monnaie courante. Ce témoignage, rapporté par Éric Favereau dans Libération, est édifiant. C'est un sentiment d'incompréhension, voire de punition, qui domine. Des patients disent aux contrôleurs ressentir la menace de mise en chambre d'isolement s'ils ne se montrent pas assez dociles avec les personnels soignants. Certains affirment prendre des médicaments pour ne pas être attachés. Adeline Azan parle de dignité humaine bafouée. Certains malades attachés n'ont d'autre choix que d'attendre le passage d'un infirmier, parfois toutes les 2 heures et moins la nuit, pour obtenir à boire, demander le bassin ou signaler un malaise. Fin de citation. On croyait que ce genre de pratique d'un autre âge, celui des asiles d'aliénés du 19e siècle ou des lieux d'internement des pays totalitaires, avait disparu. Pas en France, semble-t-il. Ailleurs, comme me l'a confié une amie, psychiatre d'un hôpital public en province, les praticiens sont, sans ménagement, poussés vers la sortie afin de pouvoir fermer des lits ou des consultations, pourtant indispensables au suivi des patients et à leur insertion dans leur propre milieu, et cela dans le seul but de procéder à des regroupements à visée économique. La vie d'un patient souffrant de maladie mentale ne vaut pas cher au pays des Lumières.
T'as peut-être des commentaires à faire sur ce passage, parce que c'est quand même un truc qu'on entend souvent. Il faudrait une psychiatrie avec plus de personnel, voilà, plus de moyens,
etc.
Une meilleure psychiatrie. Tu dis un enfermement, mais dans des conditions sympas, etc. Et d'ailleurs, c'est vrai que c'est pour ça que je te parlais tout à l'heure d'une BD que je suis en train de lire et que t'as déjà lu, qui parle des... Qui c'est ? Tu peux me rappeler le titre ?
C'est HP de Lisa Mandel.
Oui, de Lisa Mandel, aux éditions de l'association. J'ai pris ça à la médiathèque. Et en fait, c'est épouvantable parce que ça parle de pratiques psychiatriques, mais qui sont tellement horribles. Bien sûr, à côté de ça, tu peux faire, tu sais, comme le bon flic et le mauvais flic. T'as le gentil psychiatre, voilà, et le méchant psychiatre. Il y a un petit peu de ça. Donc, évidemment, par effet poussoir, à côté de ces horreurs, le fait de simplement stigmatiser, enfermer quand même, puisque moi-même j'ai déjà subi ça, te forcer par exemple à des trucs comme obligé de regarder la télé le soir avec les autres, on pourrait dire c'est quand même pas comme te torturer au fer rouge ou enfin les trucs horribles que tu peux,
certes,
tu vois, mais quand même. On pourrait dire qu'on s'en passe malgré tout. C'est un peu, enfin, tu vois, ce côté, il y a pire, ouais, je veux bien. Mais sur le côté, il nous faudrait plus de psychiatres. Ben, d'après ce que tu m'as dit, c'est ce que justement la Mad Pride avait refusé d'inclure les revendications des gentils flics et des gentils psychiatres. Mmh.
Bah, tu as tout résumé. Si l'intervention absurde de l'État dans le fonctionnement des CHU cherche le plus souvent à ménager les mandarins, on l'a vu au sujet de l'hôpital Georges Pompidou, la gestion des hôpitaux psychiatriques est en revanche arbitraire envers tous les soignants, médecins inclus, et ses effets sont délétères. Car ces institutions ne traitent pas que des patients souffrant de maladies mentales, mais aussi des adultes et des enfants porteurs de handicaps psychomoteurs complexes, parmi lesquels les formes invalidantes d'autisme et beaucoup d'autres affections encore moins bien connues. Pour y voir plus clair, pour donner aux patients les soins dont ils ont besoin, pour séparer les thérapeutiques approximatives des traitements efficaces, il faut du temps, de l'argent et du personnel. Et tout cela manque parce que, dans la quête absurde de l'équilibre financier, les hôpitaux psychiatriques, qui au fond n'intéressent pas du tout les pouvoirs publics, seront toujours perdants. Ils ne produisent rien, ils ont pour mission d'accueillir, de traiter, de soulager si possible, et en principe de toujours réconforter des personnes qui souffrent, malgré et avec les épineux problèmes soulevés par la question du consentement dans ces situations. Faut-il le répéter, des personnes qui souffrent. Alors là encore, déjà, oui, c'est bien qu'il rappelle qu'il y a la question du consentement à la fin seulement, parce que l'exposition des revendications des soignants ici et non pas tellement celle des patients.
Et on pourrait interroger la notion de consentement, c'est-à-dire que tout à fait concrètement, hein, d'ailleurs, c'est que en effet, premièrement, c'est vrai qu'on prend pas forcément le consentement des malades, mais en plus c'est une question qui peut être complètement contournée. Moi, par exemple, dans mon cas, bon, après une tentative de suicide, en fait, j'étais un peu en plus en situation de vulnérabilité juste après, donc à l'hôpital, aux urgences, un médecin me dit. Si vous voulez, vous pouvez un peu vous mettre au vert pendant. Il m'a pas parlé de vraiment de psychiatrie, hein. Donc vous mettre au vert à l'hôpital et tout pendant quelques jours, c'est le temps de vous remettre, etc. Je lui dis ouais, d'accord, et puis il me jure que je peux sortir quand je veux. Sauf que ce que j'ignorais et que j'ai d'ailleurs appris en lisant comment ça s'appelait ce livre avec quelqu'un qui s'était fait interner volontairement pour voir comment ça se passe assez récemment d'ailleurs. Que t'as reçu ici, tu te souviens?
Oui, je
sais plus comment ça s'appelle, il y avait fou dans le titre, enfin bon, c'est un type qui s'était fait...
On l'avait invité ici aussi, voilà. Dans Radio Libertaire.
Et donc, en fait, le truc, c'est que je l'ai appris en lisant son bouquin, c'est que en effet, légalement parlant, en réalité, tu rentres, l'entrée est peut-être libre, mais pas la sortie. C'est-à-dire que, en effet, ça a été mon cas, mais c'est la loi. Le médecin psychiatre peut tout à fait décider que tu vas rester aussi longtemps qu'il veut. Oui. Aussi longtemps qu'il veut. Mmh. Et donc, il n'y a pas plus de consentement que de beurre au cul. Il n'y a vraiment rien du tout. Et d'une part. Et puis ensuite, je pense, bah, par exemple, pour le fait de signer un consentement, on ne m'a rien présenté. Le copain qui était avec moi me l'a dit parce que je ne m'en étais pas rendu compte. Il m'a dit, j'ai vu, le médecin a signé pour toi. Mmh. Donc j'étais consentante, avec des conditions que j'ai même pas lues, tu vois. Oui. Donc ça se contourne comme ça veut, de toute façon, qui va écouter? Et puis qui va t'écouter puisque t'es enfermée de toute manière? Tu vois, tu dis, oh, je me suis dit, mais je me suis vue mal, hein. Je me suis dit, mais comment je vais sortir de là? Tu vois, et ils voulaient me filer des médicaments. Là, pour le coup, ça m'a redonné un peu du pep pour me battre pour pas avoir de médicaments. J'en voulais pas. J'ai dit, non, je veux pas. Mais le consentement dans le domaine psychiatrique, c'est vraiment... C'est une véritable vue de l'esprit. Donc, quelque part, évidemment... Enfin, c'est un mythe, quoi, je pense. Je crois qu'on peut carrément le dire comme ça. Je veux dire, tu dis que t'es consentant, mais si tu ne l'es pas, c'est le même prix, quoi, tu vois. Et
oui, c'est-à-dire que le soin sans consentement n'est pas seulement l'effet d'une hospitalisation d'office, ça peut être aussi, même si tu viens en hospitalisation libre,
on te laisse pas sortir. Et en plus, on te truande un peu à l'entrée, puisque premièrement ça, on te prétend que tu pourras sortir quand tu veux d'une, mais d'autre part, quand t'as carrément le médecin qui signe les conditions de et tout ça pour toi, c'est-à-dire que je savais pas dans quoi je me fourrais, mais on aurait pu me dire mais non, c'est pas moi qui ai signé, tu vois. Mais de toute façon, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas porter plainte? Tu vas faire quoi? Et puis de toute manière, tant que t'es enfermé, ben c'est un peu vol au-dessus d'un nid de coucou, hein. Je veux dire, tu dis t'es juste dans la merde. Donc t'as qu'un seul truc à faire, c'est ce que j'ai fait, et c'est le conseil que je donnerais. Premièrement, jamais faire cette erreur de se dire j'y vais mais je sors quand je veux, c'est faux. C'est la loi, hein. Vraiment, faites jamais ça. Mais par ailleurs...
En même temps, tu peux avoir le droit de sortir quand tu veux, si tu restes dans un certain contexte...
Je sais pas, là j'avais pas le droit de sortir.
Oui, là tu n'avais pas le droit parce que...
Non, si eux ils décident... C'est ce qu'ils disaient, c'est la loi. Ouais. Si le médecin décide qu'il faut pas que tu sortes, c'est son avis qui compte et c'est tout. Ton avis à toi, il compte pour du beurre. Mais c'est la loi, c'est comme ça. Parce que c'est tellement aberrant que je crois que t'as du mal à le croire. Tellement c'est dingue, que si j'ose dire. Tu vois, c'est ça, quoi. Et donc, il faut vraiment se méfier de ça. Et une fois que t'es enfermé, comment tu fais pour te sortir de ce merdier? Moi, c'était, je te dis, c'est Actor Studio, hein. J'ai dû jouer la comédie grave. Oui, je vais aller voir un psy en sortant. J'ai bien compris mon erreur, et ceci et cela, et que... Oh, et tout, j'ai la banane. Je danse, il faut voir les bons côtés de la vie. Oui. Et voilà, et du coup, j'ai réussi mon coup, mais j'ai eu beaucoup de mal en réalité. Enfin, voilà.
D'accord. Je poursuis encore la lecture, on a encore quelques minutes. L'abandon et le dénuement dans lesquels se trouve le milieu psychiatrique sont compliqués par les guerres d'école comme celles qui opposent d'un côté les psychanalystes et les pédopsychiatres d'inspiration psychanalytique et de l'autre les partisans de techniques comportementales venues d'outre-Manche ou d'outre-Atlantique.
Ah, ça c'est vrai que c'est la guerre des tranchées totales.
Ah, oui, oui. Et comme en France, on ne fait pas d'essais contrôlés, c'est-à-dire conçus scientifiquement, pour comparer les méthodes thérapeutiques et encore moins en psychiatrie qu'ailleurs, cela reste une querelle d'école dont le vent tourne dans une direction ou l'autre selon les influences qui s'exercent sur le ministère. Or, les luttes de pouvoir ne sont pas propices à la disparition de la maltraitance, bien au contraire.
Il n'explique pas pourquoi. Pourquoi ça serait pas propice? En plus, je ne vois pas ce que tu peux comparer. Dans un cas, tu as la psychanalyse, il faut que pendant 20 ans, tu jacasses, pendant 20 ans, que tu fais des interprétations à la mort moelle-neu ou te dis moui. Et de l'autre côté, effectivement, les thérapies comportementales ne durent pas longtemps et attaquent un symptôme. En effet, je ne vois pas comment tu comparerais les deux, ça n'a rien à voir.
Oui,
si tu veux.
Oui, d'accord. Donc, non, mais
en quoi ça serait pas propice, il explique ça.
C'est-à-dire que là, les luttes de pouvoir ne sont pas propices à la disparition de la maltraitance.
Mais pourquoi?
Parce que il y a les uns qui vont dire ah, vous faites une psychanalyse, mais c'est n'importe quoi. Vous venez plutôt faire une thérapie.
Mais pourquoi ça favoriserait la maltraitance de
Parce que de dire qu'à un patient qu'il a tort d'aller chez l'ennemi, en fait, ça peut être maltraitant.
Pourquoi? Excuse-moi, c'est vrai, je comprends pas. En quoi c'est maltraitant d'essayer de...
Par exemple, un psychanalyste qui dit à un patient « Mais vous faites n'importe quoi d'aller voir un comportementaliste. »
Mais tu trouves ça maltraitant? Je comprends pas.
On donne pas on fait pas de telles réflexions à des patients.
Si t'es pas idiot, tu te doutes bien qu'il est pas content d'avoir de la concurrence. Tu te dis effectivement, il y a deux épiciers côte à côte. Il y en a un qui dit à l'autre, allez pas voir le voisin.
Oui,
c'est pas de la maltraitance.
Là, on n'est pas dans un contexte médical.
Oui, mais en quoi? Enfin, je vois pas. De toute façon, je leur déconseillerais. Enfin, n'importe comment, c'est bizarrement posé. Je déconseillerais à quiconque d'aller voir le psychanalyste. Je ne sais pas si c'est maltraitant, mais je le déconseillerais vraiment. Hein.
Non, mais l'inverse aussi. Le psychanalyste qui déconseille de voir un thérapeute comportementaliste, c'est alors que peut-être que la personne voit chez le comportementaliste plutôt quelque chose de bien. Bon, bah c'est un peu influencé quand même, ouais, la personne, dans le sens où...
C'est influencé, mais comment dirais-je, je veux dire, j'ai choisi mon camp. Je trouve qu'au moins, un comportementaliste, en réalité, ça ne dure pas longtemps, ça ne coûte pas très cher, ouais. Et très souvent, tu as des résultats. En revanche, la psychanalyse, tu vas lui payer une maison de campagne, donc celui qui dit « allez pas voir ce charlatan », dans la mesure où je pense que tu as plus facilement des résultats sur quelqu'un qui, justement, ne voit peut-être pas les choses dans leur prétendue globalité, mais qui va se dire « bon, j'en sais rien, un truc qui est très handicapant, du style t'es timide, j'en sais rien, et puis tu vas voir quelqu'un qui essaye de voir comment est-ce que tu pourrais, par des exercices, par des trucs un petit peu qui sont un petit peu de l'ordre de l'astuce, ça mange pas de pain et ça fait pas de mal. En revanche, la psychanalyse, ça fait du mal. Donc moi je trouve qu'on peut pas les renvoyer dos à dos, du genre c'est de la maltraitance de dire va pas voir le psychanalyste, parce qu'à ce moment-là, moi je serais maltraitante. Je dirais mais garde tes sous dans ta poche. Je lui dirais carrément à celui qui veut faire une psychanalyse, ce type est un charlatan, n'y va pas. Donc je ne sais pas si c'est de la maltraitance. Évidemment que celui qui fait une thérapie courte, il prêche pour sa paroisse, ça paraît logique. Mais moi, je trouve que dans un cas, ça peut pas faire beaucoup de mal, si tu veux. Enfin, à moins que tu fasses des thérapies violentes à la Janoff, mais ça, il n'y en est pas question. C'est les comportementalistes, ils font rien de bien grave. Tu vois que si tu en as marre, en plus, tu t'arrêtes. Mais au moins, ils ne te siphonnent pas pour rien, parce que c'est pour rien. Le contenu de ton portefeuille. Donc oui, je serais maltraitante dans ce sens-là. Quelqu'un qui veut faire une psychanalyse, je lui dirais, n'y va pas.
Oui, je pense que l'auteur, ce qu'il veut dire en disant ça, c'est que la compétition exacerbée entre les uns et les autres ne favorise pas, disons, un éclaircissement de l'avenir du patient. Quoi. C'est ça, en fait.
Est-ce que ça éclaircit pas de dire... méfie-toi des psychanalystes, ça éclaircit.
Non, mais
son avenir va être un peu moins grave, surtout financièrement.
C'est d'accord. Non, mais c'est ce que je veux dire, c'est que c'est les luttes de pouvoir qui sont pas propices à la disparition de la maltraitance. C'est pas enfin, je sais pas comment dire. C'est pas la psychanalyse. Là, on parle pas uniquement de la psychanalyse.
Bah si, il parle de la psychanalyse.
On parle de la psychanalyse et des techniques comportementales.
Oui, mais je dans la mesure où j'ai du mal à me faire comprendre, oui, je prends aussi carrément parti pour les comportementalistes.
Oui, ça, j'ai compris.
Donc, je trouve que c'est très bien que des gens que j'estime être nuisibles, c'est-à-dire les psychanalystes, nuisibles, oui, ça, dans tous, oui, les domaines, que c'est bien que quelqu'un,
d'accord,
dise...
D'accord, mais c'est pas le propos du... Voilà, c'est pas le propos de Winkler.
J'ai bien compris que c'est pas ce qu'il voulait dire, voilà. Mais c'est ce que moi je veux dire.
Ok,
je
mais non, mais
il n'y a pas
de souci.
Je suis pas d'accord avec lui, si tu préfères.
Ok, d'accord. Voilà. Oui. D'accord. Alors, poursuivons. Oui, on a encore 3 minutes. La maltraitance administrative... Aujourd'hui, les soignants de tous les hôpitaux, de tous les dispensaires sont harassés par la charge de travail croissante, les coupures dans le personnel et le matériel, la comptabilité absurde. Bien entendu, les médecins sont eux aussi soumis aux horaires de travail insensés et aux cadences infernales. Mais l'organisation pyramidale des soignants contribue à cet état de choses. En fragmentant doublement la pratique médicale, horizontalement en spécialité et verticalement par la hiérarchie et l'esprit de caste, elle fragmente également la délivrance des soins et le cheminement du patient malade.
Il y a des trucs, excuse-moi, il y a des trucs qu'il dit, je comprends, je ne peux pas. C'est-à-dire qu'il balance des trucs comme ça un petit peu, excuse-moi, mais un peu à l'emporte-pièce, et je voudrais bien avoir plus d'explications, parce que en quoi, par exemple, je t'ai cité l'exemple de ma mère, en effet, en quoi le fait d'avoir eu recours à quelqu'un qui était spécialiste de ce qu'était son cas, à savoir un truc de gérontologie, en quoi ça a compliqué quelque chose, ça l'a juste guéri, si tu veux. Et si jamais, par exemple, on constate que t'es hospitalisé, mais que ce que tu as relève d'une spécialité, en quoi ça fragmente, je comprends pas, ça fragmente pas. Ça, c'est quelque chose qui, que spontanément n'importe qui ferait. Enfin, je sais pas. Si jamais on te, un généraliste sérieux dit, je pense que ce que vous avez là, pourquoi vous vous sentez mal, c'est que, ben, j'en sais rien, vous avez un cancer, par exemple. En quoi le fait de te conseiller d'aller voir un cancérologue va fragmenter quoi que ce soit? Je comprends pas. Il y a des fois, il dit des trucs comme ça, c'est très,
ouais, mais là, c'est très lapidaire, il parle des cadences infernales.
Ah, les cadences infernales, c'est un autre problème. Et j'ai l'impression qu'il mélange, des fois, il mélange un peu tout, quoi. Les cadences infernales, je suis d'accord.
Ouais, ouais.
Mais le fait de fragmenter parce qu'il y a des spécialistes, il en revient, ça rancune envers les spécialistes.
Et qu'il y a une hiérarchie aussi.
Bah, il y a une hiérarchie, la hiérarchie, il y a hiérarchie. Que tu aies quand tu es dans un hôpital et que tu as au-dessus de toi quelqu'un à qui tu dois rendre des comptes. La hiérarchie, je suis contre en général. Sur ce type de hiérarchie, un directeur qui te dit fais pas ci, fais pas ça, ou l'idée d'un interne qui est pas censé ouvrir son bec, même quand des fois il a raison, je suis d'accord. Mmh. Mais appeler une hiérarchie, le fait que si jamais tu as un patient dont le symptôme relève en effet d'une spécialité, quelle qu'elle soit, tu vois, je sais pas, urologue, tu vois, j'en sais rien, toutes les spécialités qu'il peut y avoir.
Ouais.
Et en quoi ça fragmente? Et en quoi c'est une hiérarchie qui empêcherait que tu guérisses? C'est n'importe quoi. C'est le contraire, je trouve. Enfin, c'est ce qu'on ferait spontanément en tant que patient. C'est pas ce que tu ferais.
Peut-être qu'en suivant, on va peut-être y voir plus clair, on va voir. De plus, la division des soignants permet aux diktats administratifs de mieux régner. Si chaque profession de santé, les médecins en tête, n'était pas occupé à défendre son précaré contre les attaques des administrateurs d'hôpitaux, si les syndicats de médecins se préoccupaient vraiment de lutter pour l'intérêt des patients et non pour ceux de leurs membres les mieux lotis, si l'on travaillait à gratifier et à faciliter l'installation des médecins dans les zones qui en ont le plus besoin pour répondre aux besoins de la population,
ah, je suis d'accord.
Si l'on favorisait les soins, y compris palliatifs, à domicile, si l'on cessait de fermer les maternités locales,
d'accord,
on diminuerait d'autant le recours aux urgences et aux services hospitaliers coûteux.
Ah bah, à part ça, là-dessus, je suis d'accord d'un bout à l'autre. Après, je ne sais, il faut quand même parler d'un point de vue pratique. Les problèmes de déserts médicaux sont réels. Et en effet, moi, l'hôpital où j'ai accouché a dû fermer pour des raisons de, il faut tout regrouper. Et franchement, c'est pas pratique. Hein.
Ah oui,
je veux dire, quand t'es occupé à ce que le bébé est en train de se décrocher, tu dis c'est mieux qu'il soit à côté quand même. Mais comment dire, le problème du désert médical, c'est quand même lié au capitalisme. Enfin, excuse-moi d'avoir un discours un peu politique.
Non, mais tout à fait, oui.
Mais je veux dire, t'en as qui se disent, je vais pas aller à Pétaouchnok. Et comment tu vas les convaincre, à moins de leur mettre un flingue sur la tempe, si jamais c'est sur le volontariat? C'est, je dis pas le contraire, c'est pas évident, quoi. C'est pas évident du tout, parce que ben ils aiment mieux avoir plus de sous que moins, et que c'est un petit peu ça quand même le que c'est quand même un peu ça le problème. Hein. C'est que, et puis c'est vrai que c'est dur quand t'es dans un village, par exemple, t'es plus c'est pas pareil que d'être j'en sais rien, enfin tu vois, d'être dans un, je sais que moi par exemple, même mon médecin traitant, on en rigole toujours parce que elle a pas besoin de donner ses dates de vacances, et il faut qu'elle donne les dates où elle est jamais là. Elle est tout le temps en vacances, donc mais elle peut, parce que en effet ça se passe assez bien pour elle, et elle y va quand elle veut, quoi, en réalité. Voilà.
Ouais.
Mais pour les déserts médicaux, c'est un vœu pieux, un peu. Je vois pas comment, je vois pas ce que.
Ah non, mais
ouais,
de toute façon, ça finit par trois questions. Trois questions distinctes. Mais comment faire quand la profession médicale recrute et valorise essentiellement celles et ceux qui veulent exercer en CHU, en ville ou dans les quartiers riches? Deuxième question, comment faire quand en France on continue à former des aristocrates souvent savants mais incapables de délivrer des soins à la population? Et troisième point, comment faire tant qu'on n'aura pas admis une fois pour toutes que la filière médicale produit surtout des prescripteurs et très peu de soignants? Voilà, c'est son point de vue. Voilà, donc bah, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et on vous dit à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Loin des miradors du droit pénal, loin des barbelés, des chiens de garde du devoir civique. Loin de la soumission éclate la rébellion, car dans ce brouillard, il y en a qui en ont marre. Y a pas de fatalité, tout peut changer, grève, blocage, sabotage, désertion, insurrection, mutinerie, pour que crève la démocratie. Un quartier s'embrase, une grève se propage, des gueules s'ouvrent à grands coups de pavé, hurle, révolte et rage. Marre de se la fermer avec au bide la peur, marre d'être éduqué, exploité, oppressé, humilié, vidé d'avoir trimé. Marre d'entendre crier le patron garde à vous, de l'enrichir en fabriquant des merdes et comme seule consolation consommer ces mêmes merdes. Marre de croire à l'exploitation comme seule option et comme seule forme d'expression un putain de bulletin de vote. Ces bourreaux et instruments à élire, choisir dans cette classe de racketteurs qui se goinfent de la sueur des travailleurs, des accidents techniques et arrêts du cœur, alors l'urne attrape rêve, la bousiller, pour ne pas survivre en crevant ou crever en survivant. La citoyenneté, rien à péter. Pour que crèvent les illusions démocratiques, des vitrines de permanence électorale tombent, d'autres s'enflamment, des serrures de bureaux de vote se bloquent, des bulletins de vote s'envolent, un réseau télé ne pollue plus. Certains se font arrêter, emprisonner ou attendre leur procès. Une compilation en solidarité avec les révoltés, avec ceux qui refusent de purger leur vie d'un sommeil sans rêve, alors que tout s'effondre, se nourrir de nos désespoirs pour que naisse l'espoir, et que l'organisation collective infecte ce monde sans amélioration ni démocratisation ni autogestion. Changer les rapports, être enfin maître de nos vies dans un monde sans classe ni gradé, dans un monde sans usine ni prison, sans argent ni valeur, sans état ni république, sans patron ni flic.